Aristote, Physique, traduction Jules Barthélemy Saint-Hilaire, livre 4, chapitre 18. Sommaire. Le temps est long ou court. Il n'est pas lent ou rapide, parce que le nombre ne l'est pas non plus. Il n'est que petit ou grand. Le temps et le mouvement se servent réciproquement de mesure, comme la grandeur et le mouvement peuvent se servir aussi de mesures réciproques. Paragraphe 1. On vient de voir que le temps est le nombre du mouvement par rapport à l'antériorité et à la postériorité, et qu'il est continu parce qu'il est le nombre d'un continu. Paragraphe 2. Le plus petit nombre possible. Apprendre le mot de nombre d'une manière absolue, c'est 2. Mais pour un nombre particulier et concret, si, en un sens, ce moindre nombre est possible, en un autre sens, il ne l'est pas. Et par exemple, si pour la ligne, le plus petit nombre en quantité numérique, c'est 2 lignes, et même une seule ligne, en grandeur, il n'y a pas de plus petit nombre possible pour la ligne, puisque toute ligne est indéfiniment divisible. Par suite, le temps est tout à fait comme elle, car, au point de vue du nombre, le plus petit temps, c'est un ou deux temps, mais sous le rapport de la grandeur, il n'y a pas de plus petit temps possible. Paragraphe 3. On comprend bien, d'ailleurs, pourquoi on ne peut pas dire du temps qu'il est lent ou rapide, et qu'on dit seulement qu'il y a beaucoup de temps ou peu de temps, et que le temps est long ou court. En tant que continu, le temps est long et court. En tant que nombre, il y a beaucoup de temps et peu de temps. Mais il n'est pas rapide ou lent, parce que le nombre qui nous sert à nombrer n'est jamais ni lent ni rapide. Paragraphe 4. C'est le même temps qui coexiste partout à la fois. Mais en tant qu'il y a antériorité et postériorité, le temps n'est plus le même. Parce que le changement aussi, quand il est actuel et présent, est un. Et que le changement passé et le changement futur sont autres. Le temps est bien un nombre. Mais ce n'est pas celui qui nous sert à compter. C'est celui qui est compté lui-même. Or, ce temps-là est toujours différent sous le rapport de l'antérieur et du postérieur, parce que les instants sont toujours autres, tandis que le nombre est toujours un et le même, soit qu'il s'applique ici à 100 chevaux et là à 100 hommes. Il n'y a de différence qu'entre les choses dénombrées, c'est-à-dire que ce sont seulement les chevaux et les hommes qui diffèrent proprement dit. Paragraphe 5. D'ailleurs, de même que par un retour constamment pareil, le mouvement peut être constamment un et identique, de même aussi, le temps peut être identique et un périodiquement, par exemple une année, un printemps, un automne. Paragraphe 6. Et non seulement nous mesurons le mouvement par le temps, mais nous pouvons encore mesurer le temps par le mouvement, parce qu'ils se limitent et se déterminent mutuellement l'un par l'autre. Le temps détermine le mouvement puisqu'il en est le nombre, et réciproquement, le mouvement détermine aussi le temps. Quand nous disons qu'il y a peu ou beaucoup de temps découlé, nous le mesurons par le mouvement. De même qu'on mesure le nombre par la chose qui est l'objet de ce nombre. Et par exemple, c'est par un seul cheval qu'on mesure le nombre des chevaux. Ainsi, nous connaissons quelle est la quantité totale des chevaux par le nombre. Et réciproquement, c'est en considérant un cheval seul que le nombre même des chevaux se trouve connu. Le rapport est tout à fait pareil entre le temps et le mouvement, puisque nous calculons de même le mouvement par le temps et le temps par le mouvement. paragraphe 7. C'est d'ailleurs avec toute raison, car le mouvement implique la grandeur, et le temps implique le mouvement, parce que ce sont là également et des quantités, et des continus, et des divisibles. C'est parce que la grandeur a telle propriété que le temps a tels attributs, et le temps ne se manifeste que grâce au mouvement. Aussi, nous mesurons indifféremment la grandeur par le mouvement et le mouvement par la grandeur. Nous disons que la route est longue si le voyage a été long, et réciproquement, que le voyage est long si la route a été longue. De même aussi, nous disons qu'il y a beaucoup de temps s'il y a beaucoup de mouvement, et réciproquement, beaucoup de mouvement s'il y a beaucoup de temps. Chapitre 19. Sommaire. Explication de cette expression « être dans le temps ». Les choses éternelles ne sont pas dans le temps. Le temps est la mesure du repos aussi bien que du mouvement. Le non-être n'est pas dans le temps. Le présent ou l'instant est la continuité et la limite du temps. Analogie de l'instant et de la ligne, de l'instant et du cercle. Explication d'expressions diverses qui marquent le temps. À l'instant, un jour, ou alors, tout à l'heure, récemment, jadis, tout à coup. Paragraphe 1. Le temps est donc la mesure du mouvement et de l'être même du mouvement. Il mesure le mouvement parce qu'il limite et détermine un certain mouvement qui sert à mesurer le mouvement total. De même que la coudée mesure la longueur parce qu'elle détermine une certaine dimension qui sert à mesurer tout le reste de cette longueur. Pour le mouvement, être dans le temps, c'est être mesuré par le temps, soit en lui-même, soit dans sa réalité. Car le temps mesure tout à la fois et le mouvement et la réalité du mouvement. Et pour le mouvement, être dans le temps, c'est avoir son existence mesurée par lui. Paragraphe 2. Il est clair que pour toutes les autres choses également, être dans le temps, c'est aussi avoir leur propre existence mesurée par le temps. Être dans le temps ne peut signifier que l'une de ces deux choses, être quand le temps est, ou bien être comme sont certaines choses quand on dit qu'elles sont dans le nombre. Or, être dans le nombre revient à dire ou que la chose est une partie et une propriété du nombre, et d'une façon générale un élément quelconque du nombre, ou bien que c'est le nombre de cette chose. Mais le temps lui-même étant un nombre, l'instant présent, l'antérieur et toutes les distinctions analogues sont dans le temps, comme sont dans le nombre, l'unité, le pair et l'impair. D'une part, des éléments du nombre et d'autre part des éléments du temps. Quant aux choses, elles sont dans le temps comme elles sont dans le nombre, et par suite, cela étant, elles sont renfermées par le nombre, absolument comme les choses qui sont dans l'espace sont renfermées par l'espace. Paragraphe 3. On doit voir aussi qu'être dans le temps, ce n'est pas simplement être quand le temps est. De même que ce n'est pas être en mouvement ou dans un lieu que d'être quand le mouvement est ou que le lieu est. Car si être dans quelque chose avait ce sens, toutes les choses seraient alors dans une chose quelconque, et le ciel tiendrait dans un grain de millet, puisque le ciel est en même temps qu'est le grain du millet. Or, cette coïncidence n'est qu'un simple accident. Mais une conséquence absolument nécessaire, c'est que si quelque chose est dans le temps, il y est du temps, du moment que cette chose existe, et que si cette chose est en mouvement, c'est qu'il y est du mouvement. Paragraphe 4. Mais comme être dans le temps ressemble à être dans le nombre, il y aura un temps plus grand que tout ce qui est dans le temps. Paragraphe 5. Voilà comment tout ce qui est dans le temps est nécessairement renfermé par le temps, comme d'ailleurs toutes les choses qui sont dans quelque chose y sont renfermées. Et par exemple, celles qui sont dans le lieu sont renfermées par le lieu. Paragraphe 6. Il faut également que les choses soient affectées de quelque manière par le temps, comme le prouve le langage ordinaire, où l'on dit que le temps détruit tout, que tout vieillit avec le temps, qu'avec le temps tout s'efface et s'oublie. Mais le temps n'accroît pas notre science, le temps ne nous rajeunit pas, le temps ne nous embellit pas. C'est qu'en lui-même, le temps est bien plutôt une cause de ruine, puisqu'il est le nombre égal du mouvement, et que le mouvement transfigure tout ce qui est. Paragraphe 7. Une conséquence évidente de ceci, c'est que les choses qui sont éternelles en tant qu'éternelles ne sont pas dans le temps, car elles ne sont pas renfermées par le temps. Leur existence n'est pas mesurée par lui, et ce qui le prouve bien, c'est qu'elles ne subissent de sa part aucune action, soustraites au temps dont elles ne font pas partie. Paragraphe 8. Mais le temps, puisqu'il est la mesure du mouvement, sera aussi la mesure du repos, bien qu'indirectement, car tout repos est dans le temps. Or, si ce qui est dans le mouvement doit nécessairement être mu, il n'en est pas de même pour ce qui est dans le temps, car le temps n'est pas le mouvement, il n'est que le nombre du mouvement. Et ce qui est en repos peut fort bien être aussi dans le nombre du mouvement, puisqu'on ne dit pas de toute chose immobile qu'elle est en repos, mais qu'on le dit seulement, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut, d'une chose qui est privée du mouvement que naturellement elle devrait avoir. Paragraphe 10. Mais quand on dit qu'une chose est en nombre, cela signifie qu'il y a un certain nombre de cette chose, et que l'être de cette chose est mesuré par le nombre dans lequel elle est. Par conséquent, si la chose est dans le temps, elle est mesurée par le temps. Or, le temps mesurera et le mobile qui se meut et le corps qui reste inerte. L'un en tant qu'il est mu, l'autre en tant qu'il reste dans son inertie, car il mesurera la quantité et de leur inertie et celle de leur mouvement, de telle sorte que le corps qui est en mouvement ne sera pas absolument mesuré par le temps sous le rapport de la grandeur qu'il peut avoir, mais sous le rapport de la grandeur de son mouvement. Paragraphe 11. Donc, les choses qui ne sont ni en mouvement ni en repos ne sont pas dans le temps, car être dans le temps, c'est être mesuré par le temps, et le temps ne mesure que le mouvement et l'inertie. Paragraphe 12. On doit voir encore que jamais le non-être, ou ce qui n'est pas, ne peut être dans le temps. Par exemple, toutes les choses qui ne peuvent pas être autrement que n'être jamais, comme le diamètre qui ne peut jamais être commensurable au côté. Paragraphe 13. D'une manière générale, si le temps est en soi la mesure du mouvement et n'est qu'indirectement la mesure du reste, il est évident que toutes les choses dont le temps mesure l'être ne peuvent jamais avoir leur être que dans le repos ou le mouvement. Donc aussi, toutes les choses périssables et créées, en d'autres termes, toutes celles qui peuvent tantôt être et tantôt n'être pas, sont nécessairement dans le temps, puisqu'il y a un temps plus vaste qui dépasse leur être et qui dépasse le temps même qui mesure la durée de leur existence. Mais pour les choses qui n'existent pas, toutes les fois que le temps les renferme, ou bien c'est qu'elles ont été, comme Homère, a été jadis, ou bien c'est qu'elles seront comme tout ce qui est de l'avenir. Le temps les renferme de l'une ou de l'autre des deux façons, et s'il les renferme des deux façons à la fois, c'est qu'elles peuvent, tout à la fois, avoir été dans le passé et être encore dans l'avenir. Mais pour les choses que le temps ne renferme d'aucune manière, elles n'ont point été, elles ne sont pas et elles ne seront jamais. Or, parmi les choses qui ne sont pas, celles que le temps ne renferme pas sont toutes les choses dont les contraires sont éternels. Ainsi, par exemple, l'incommensurabilité du côté au diamètre étant éternelle, le côté immensurable au diamètre ne sera point dans le temps, et par suite, le côté commensurable n'y sera point davantage. Donc, éternellement aussi, il n'est point puisqu'il est contraire à une chose qui est éternelle. Mais toutes les choses dont le contraire n'est pas éternel peuvent être et n'être pas, et elles sont sujettes à naître et à périr. Paragraphe 14. Quant à ce qui regarde l'instant présent, il est, ainsi que je l'ai dit, la continuité du temps, car il réunit continuellement le temps passé au temps à venir, et d'une manière générale, il est la limite du temps, commencement de l'un et fin de l'autre. Mais ceci n'est pas évident pour l'instant, comme ce l'est pour la ligne qui demeure immobile. L'instant ne partage et ne divise le temps qu'en puissance. En tant qu'il divise, il est toujours autre. En tant qu'il réunit et continue, il est toujours le même. C'est comme le point dans les lignes mathématiques. Car pour la raison, le point n'est pas toujours un seul et même point, puisqu'il est autre quand on divise la ligne, et qu'il est absolument le même en tant qu'il est un. De même aussi pour l'instant. Tantôt, il est en puissance la division du temps. Tantôt, il est la limite et l'union des deux à la fois. Mais la division et l'union sont la même chose et soutiennent le même rapport. Seulement, leur manière d'être n'est pas la même. Telle est une première façon de comprendre l'instant. Paragraphe 15. Il en est une autre. Et c'est lorsque le temps de l'instant dont on parle est proche de celui où l'on est. Ainsi on dit de quelqu'un « il viendra à l'instant » pour dire qu'il viendra aujourd'hui. « Il est venu à l'instant » pour dire que c'est aujourd'hui qu'il est venu. Mais pour les événements d'Ilion, on ne dit point qu'ils se sont passés à l'instant, pas plus qu'on ne dit que le déluge a eu lieu à l'instant. Cependant, le temps est continu en remontant jusqu'à ces événements. Mais ces événements ne sont pas proches de nous. Paragraphe 16. L'expression de « alors », « un jour » indique un temps indéterminé par rapport à un temps antérieur ou postérieur. Ainsi, l'on dit, par exemple, « un jour » ou « alors » Ilion a été prise. « Alors » ou « un jour » une inondation aura lieu, car c'est nécessairement étant déterminé par rapport à l'instant actuel. Il y aura donc d'une part une certaine quantité de temps qui s'écoulera vers l'événement à partir de l'instant où nous sommes, et d'autre part, il s'en est écoulé pour remonter à l'événement dont on parle, s'il s'agit de quelque chose qui concerne le passé. Paragraphe 17. S'il n'est point de temps duquel on ne puisse dire un jour, alors toute espèce de temps, quel qu'il soit, peut toujours être fini. Paragraphe 18. Le temps viendra-t-il donc jamais à défaillir? Ou plutôt, ne doit-on pas dire qu'il ne défaillira jamais? En effet, le temps ne peut jamais défaillir puisque le mouvement est éternel. Paragraphe 19. Le temps est-il donc toujours autre, ou est-ce le même qui revient à plusieurs fois? Il est clair que tel est en cela le mouvement, tel est aussi le temps. Si le mouvement peut être toujours un et le même, le temps aussi sera également un et identique. Si le mouvement ne l'est pas, le temps ne le sera pas davantage. Paragraphe 20. Mais puisque l'instant présent est la fin et le commencement du temps, non pas du même temps, il est vrai, mais la fin du passé et le commencement de l'avenir, on peut dire qu'il en est ici comme du cercle, où dans le même point se trouve en quelque sorte à la fois le convexe et le concave. Le temps aussi en est toujours à commencer et à finir, et c'est là ce qui fait que le temps paraît toujours autre. Car le présent n'est pas le commencement et la fin du même temps, parce que si c'était le même temps, les opposés coexisteraient ensemble et relativement à un seul et même objet. Mais le temps ne viendra non plus jamais à défaillir, parce qu'il en est toujours à commencer. Paragraphe 21. Tout à l'heure exprime une partie du temps à venir, proche de l'instant présent, lequel est indivisible. Quand vous promènerez-vous? Tout à l'heure, répond-on. Et ceci veut dire que le temps où l'on ira se promener est proche. Tout à l'heure peut signifier aussi une partie du temps passé peu éloignée de l'instant actuel. Quand vous promènerez-vous? Je me suis promené tout à l'heure. Je me suis déjà promené. Mais on ne dit pas qu'ils y ont été saccagés tout à l'heure, parce que cet événement est par trop éloigné de l'instant présent où l'on parle. Paragraphe 22. Récemment, se dit de ce qui est proche de l'instant actuel tout en faisant partie du passé. Quand êtes-vous arrivé? Récemment ou à l'instant? Et cela ne se dit que quand le temps est rapproché du moment même où l'on est. Paragraphe 23. Jadis exprime au contraire l'éloignement des choses. Paragraphe 24. Tout à coup s'emploie pour exprimer que la chose survient par un dérangement subi dans un temps qui par sa petitesse est imperceptible. Paragraphe 25. Or, tout changement est par sa nature même cause d'un dérangement, et c'est dans le temps que toutes choses naissent et périssent. Ainsi a-t-on dit parfois que le temps et tout ce qu'il y a de plus sage et de plus savant. Mais Paron, le pythagoricien, avait peut-être plus raison de dire que le temps est tout ce qu'il y a de plus ignorant, car c'est avec le temps qu'on oublie tout. En soi, en effet, le temps est bien plutôt cause de ruine que de génération, ainsi que je l'ai déjà dit. Car le changement pris en lui-même est toujours un dérangement de ce qui a été, et ce n'est qu'indirectement que le temps est cause de la génération et de l'être. Une preuve bien suffisante, c'est que rien ne peut naître sans éprouver une sorte de mouvement et d'action, tandis qu'une chose peut au contraire périr sans le moindre mouvement. Et c'est là surtout ce qu'on entend par la destruction que cause le temps. Néanmoins, et à vrai dire, ce n'est pas le même temps qui produit cette destruction, et c'est seulement que ce changement-là, aussi bien que les autres, se produit dans le temps. Paragraphe 26. Jusqu'ici, nous avons donc démontré l'existence du temps et défini ce qu'il est. Nous avons aussi expliqué les différentes acceptions du mot « instant » et le sens de ces autres expressions « un jour, tout à l'heure, récemment, jadis, tout à coup ». Chapitre 20. Sommaire. Dernière considération sur le temps. Tout changement a lieu dans le temps. Sens différent des mots antérieurs et postérieurs, selon qu'il s'agit du passé ou de l'avenir. Rapport de la pensée au temps. Le temps existe-t-il sans l'âme qui le perçoit? Identité du temps. Ses rapports avec le mouvement et avec le nombre. Fin de la théorie du temps. Paragraphe 1. Après l'énumération que nous venons de faire, il est clair que nécessairement, tout changement et tout mobile sont dans le temps, car tout changement est ou plus rapide ou plus lent, et c'est là ce qu'on peut observer dans tous les cas. Je dis d'une chose qu'elle se meut plus rapidement qu'une autre quand elle change antérieurement à cette autre pour arriver à l'état qui est en question, tout en parcourant la même distance et en étant doué d'un mouvement uniforme. Par exemple, lorsque, dans le mouvement de translation, les deux choses que l'on compare se meuvent circulairement, ou se meuvent en ligne droite, et de même pour tout le reste. Mais antérieurement est dans le temps, et antérieur et postérieur ne se disent que par rapport à leur éloignement de l'instant présent. Or, le présent, l'instant, est la limite du passé et de l'avenir. Par conséquent, le présent étant dans le temps, l'antérieur et le postérieur y seront aussi. Car là où est le présent, là est aussi l'éloignement par rapport au présent. Mais antérieurement s'entend d'une manière inverse selon qu'il s'agit du temps passé ou du temps futur. Ainsi, dans le passé, nous appelons antérieur ce qui est le plus éloigné du présent, et postérieur ce qui s'en rapproche davantage. Pour le futur, au contraire, l'antérieur est ce qui est plus approché du présent, le postérieur ce qui en est le plus loin. Donc, l'antérieur étant toujours dans le temps, et l'antérieur étant toujours aussi une conséquence du mouvement, il est clair que tout changement ou tout mouvement est dans le temps. Paragraphe 2. Une chose bien digne d'étude, c'est de rechercher quel est le rapport du temps à l'âme qui le perçoit, et comment il nous semble qu'il y a du temps en toutes choses, la terre, la mer et le ciel. Paragraphe 3. Est-ce parce que le temps est une propriété ou un mode du mouvement dont il est le nombre, et que toutes ces choses sont mobiles? Car tout cela est dans l'espace. Et le temps et le mouvement coexistent toujours l'un à l'autre, soit en puissance, soit en acte. Paragraphe 4. Mais si l'âme par hasard venait à cesser d'être, y aurait-il encore ou n'y aurait-il plus de temps? C'est là une question qu'on peut se faire, car lorsque l'être doit compter ne peut plus être, il est impossible également qu'il y ait encore quelque chose de comptable. Et par suite, évidemment, il n'y a plus davantage de nombre, car le nombre n'est que ce qui a été compté ou ce qui peut l'être. Mais s'il n'y a au monde que l'âme, et dans l'âme l'entendement, qui est la faculté naturelle de compter, il est dès lors impossible que le temps soit si l'âme n'est pas. Et par suite, le temps n'est plus dans cette hypothèse que ce qu'il est simplement en soi, si toutefois il se peut que le mouvement ait lieu sans l'âme. Mais l'antérieur et le postérieur sont dans le mouvement et le temps n'est au fond que l'un et l'autre en tant qu'ils sont numérables. Paragraphe 5. On peut encore se demander de quelle espèce de mouvement le temps est le nombre. Ou bien est-il le nombre d'un mouvement quelconque? Ainsi, c'est dans le temps que les choses naissent, périssent et s'accroissent. C'est dans le temps qu'elles changent et qu'elles se meuvent. Le temps est donc le nombre de chacune de ces espèces de mouvements, en tant que chacune d'elles est mouvement. Et voilà comment, d'une manière générale, le temps et le nombre du mouvement continu, et non pas de telle espèce particulière de mouvement. Paragraphe 6. Mais il est possible que deux choses différentes se meuvent au même moment, et le temps serait alors le nombre de l'une et l'autre à la fois. Le temps, dans ce cas, est-il autre aussi? Et est-il possible qu'il y ait deux temps égaux simultanément? Ou bien, n'est-ce pas chose impossible? Le temps tout entier est un, semblable et simultané pour tout. Et même les temps qui ne sont pas simultanés n'en sont pas moins de la même espèce. C'est comme le nombre qui est bien toujours le même, qu'il s'agisse d'ailleurs ici de chiens et là de chevaux, si l'on veut, de part et d'autre, au nombre de 7. Pareillement, le temps est le même pour des mouvements qui s'accomplissent ensemble. Seulement, le mouvement est tantôt rapide et tantôt il ne l'est pas. Tantôt il est un déplacement et tantôt une simple altération de qualité. Mais pourtant c'est bien le même temps, puisque de part et d'autre, il est bien aussi le nombre égal et simultané et du déplacement et de l'altération. Ce qui fait que les mouvements sont différents et séparés, tandis que le temps demeure partout le même, c'est que le nombre reste partout un et le même pour des mouvements ou des êtres égaux et simultanés. Paragraphe 7. Il existe un mouvement de translation, dont une espèce est la translation circulaire. Et comme toute chose se compte et se mesure par une seule et unique chose du même genre qu'elle, les unités par une unité, les chevaux par un cheval, etc., de même, le temps se compte et se mesure par un certain temps déterminé. Et le temps, ainsi que nous l'avons déjà dit, se mesure par le mouvement et le mouvement par le temps. C'est-à-dire que c'est par le temps d'un mouvement déterminé que se mesure la quantité et du mouvement et du temps. Paragraphe 8. Si donc le primitif est toujours la mesure de tous les objets homogènes, la translation circulaire uniforme comme elle l'est doit être la mesure par excellence, parce que son nombre est de tous le plus facile à connaître. L'altération, l'accroissement, la génération même n'ont rien d'uniforme. Il n'y a que la translation qui le soit. Paragraphe 9. Aussi, ce qui fait que le temps a été pris pour le mouvement de la sphère, c'est que c'est là le mouvement qui mesure tous les autres, et qui mesure aussi le temps. Paragraphe 10. Ceci même explique et justifie le dicton ordinaire qui ne voit qu'un cercle dans les choses humaines, comme dans toutes les autres choses qui ont un mouvement naturel et qui naissent et meurent. Cette opinion vient de ce que toutes ces choses sont appréciées d'après le temps et qu'elles ont une fin et un commencement, comme si c'était par une sorte de période régulière. Or, le temps lui-même ne semble être qu'un cercle de certains genres, et si à son tour il a cette apparence, c'est qu'il est la mesure de cette translation circulaire, et que réciproquement, il est lui-même mesuré par elle. Par conséquent, dire que toutes les choses qui se produisent forment un cercle revient à dire qu'il y a aussi une espèce de cercle pour le temps. En d'autres termes, c'est dire encore que le temps est mesuré par le mouvement de translation circulaire, car, à côté de la mesure, l'objet mesuré ne paraît être dans sa totalité rien autre chose qu'un certain nombre accumulé de mesures. Paragraphe 11. D'ailleurs, on a bien raison de dire que le nombre est toujours le même d'une part pour les moutons par exemple et pour les chiens d'autre part, si le nombre de ces animaux est égal de part et d'autre. Mais que la dizaine n'est pas la même, non plus que les 10 objets ne sont pas les mêmes. C'est absolument comme les triangles qui ne sont pas les mêmes quand l'un est équilatéral et l'autre scalène. Cependant, la figure est bien la même, puisque tous deux sont des triangles. Car on dit d'une chose qu'elle est identique à une autre quand elle n'en diffère point dans sa différence essentielle. Et elle cesse d'être identique quand elle en diffère ainsi. Le triangle, par exemple, ne diffère d'un autre triangle que par une simple différence de triangle. Et il n'y a alors que les triangles qui soient différents, mais ils ne diffèrent pas de figure, et tous deux sont dans une seule et même division de figure. Car telle figure est un cercle et telle autre figure est un triangle. Et dans le triangle, tel triangle est isocèle, tandis que tel autre est scalène. La figure est donc la même. Et c'est telle figure, par exemple, un triangle, mais le triangle n'est pas le même. C'est de cette façon que le nombre aussi est le même, car le nombre des chiens ne diffère pas de celui des moutons par une différence de nombre. Seulement la dizaine n'est pas la même, parce que les objets auxquels elle s'applique sont différents entre eux, ici des chiens et là des chevaux. Paragraphe 12. Nous terminons ici ce que nous avions à dire, et du temps considéré en lui-même, et de ceux de ses attributs qui appartiennent spécialement à cette étude. Fin du livre 4.